Oui, bonjour, j'appelais juste pour vous signaler que j'allais manger, là, a priori, je pense saucisse lentille, mais je suis pas encore bien sûr, et puis je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi, mais je vous tiendrai au courant, bien sûr, hein. Enfin, même si ça intéresse pas forcément grand monde, vu que je ne suis pas ministre de l'Intérieur. À bientôt, au revoir.
Oui, je voulais faire un appel à tous les électeurs et aussi toutes les électrices. Surtout, ne votez jamais pour une femme pour la présidence de la République, parce qu'une femme, ça a tout le temps la migraine, c'est vachement pas fiable. Salut, c'était Savorgnan dans les Ardennes.
C'est Tepetomac Tamo, le collectif amérindien de défense des Wayanas et des Tecos qui vous rappelle de Guyane française. Merci du soutien que vous nous avez déjà apporté. Mais il nous en faut encore plus à J-10 de la fin de l'enquête d'utilité publique sur le parc amazonien de Guyane. C'est en effet la dernière ligne droite pour soutenir la demande des Amérindiens Wayana et Teco pour que leur territoire de subsistance soit mis sous protection de la zone de cœur du parc. Écrivez, s'il vous plaît, votre soutien à cette demande à la préfecture de Guyane, commission d'enquête publique du parc, DCLAI 97-300 Cayenne. Je répète, préfecture de Guyane, commission d'enquête d'utilité publique du parc, DCLAI 97-300 Cayenne, sous enveloppe timbrée, au tarif normal, mais portant les mentions prioritaires et par avion. Nous vous le rappelons, après le 20 octobre, il sera peut-être trop tard pour l'avenir de deux nations amérindiennes. Alors merci, merci pour votre aide massive. Au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe et bonjour à tous les AMG, notamment aux AMG du Mans. Je vous rappelle que la première du repère de là-bas au Mans se déroulera ce soir, mercredi, à 18h30 à l'épicerie du Pré, 31 rue du Pré au Mans. Voilà, donc plusieurs personnes ont déjà manifesté leur intérêt, donc vous ne serez pas tout seul à venir, donc on vous attend à ce soir.
Bonjour les AMG, ben moi j'aimerais bien savoir, et s'il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un le sait, combien était payé le PDG là d'Airbus qui vient de démissionner et combien il touche quand il part comme ça, démissionnaire, parce que comme, bon après tout, hein, les indemnités c'est combien là?
Bonsoir Daniel Mermet, l'espèce humaine, le livre de Robert Antelme a été mis en scène par Claude Viala, la compagnie Aberratio Mentalis. Et la pièce de théâtre sera présentée à Nantes à la Salle Vasse le 21 octobre à 20h30. Voilà, alors aux amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, on trouve très important qu'il y ait un maximum de gens qui viennent voir cette pièce de théâtre. Voilà, je te remercie. Si tu peux me faire passer l'information, ce serait très sympa. Au revoir.
Voilà, effectivement, très beau livre, très grand livre, L'espèce humaine de Robert Antelme. Eh bien, j'espère que la mise en théâtre, la mise en scène de ce beau livre sera à la hauteur du texte. Et on sera attentif, effectivement, à ça. Merci pour les messages que vous avez envoyés aujourd'hui, laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. On est de retour, nous, pour ce qui nous concerne de Kaboul, d'Afghanistan, Jalalabad, Kandahar, etc. On vous racontera tout ça dans quelques jours. On est un peu secoué par tout ça. On a l'impression de retomber un peu sur terre, de se remettre dans le quotidien, dans le fil du quotidien ici, parce qu'on a été coupé quand même pas mal de... Ça fait du bien d'ailleurs, hein, les informations courantes ici, mais ça nous a pas empêché de évidemment d'apprendre l'assassinat d'Anna Politkovskaya et d'en être très ému, non pas par un quelconque esprit corporatiste, vous pouvez nous croire là-dessus, mais parce que elle faisait partie j'espère me tromper en disant ce que je veux dire, c'est-à-dire des derniers journalistes engagés qui à tort et à raison, naïvement ou pas, pensent que les journalistes peuvent encore être utiles, avoir une utilité. En tous les cas, il y en a une immense, même si Monsieur Poutine dit que son influence, son rayonnement était minime à l'intérieur du pays. C'est pas sûr et c'est pas vrai. Et son travail a eu un rayonnement très grand, évidemment, vous le savez, à travers le monde, mais c'est une occasion pour revenir sur la Tchétchénie, cette Tchétchénie oubliée, qui peu à peu retombe dans l'indifférence, quels que soient les efforts des uns ou des autres pour faire savoir ce qui s'y passe. Aussi, aujourd'hui, on va revenir en Tchétchénie, on a fait pas mal de plusieurs reportages, plusieurs voyages là-bas, avec Aude Merlin, qui était une amie de Anna Politkovskaya, et ce sera un hommage à cette grande journaliste que de parler, de donner la parole à ce peuple tchétchène auquel elle aura consacré l'essentiel de ce qu'il faut bien appeler son œuvre. Voilà, c'est après encore un bouquet de messages, toujours laissés par vous, par vos soins et vos voix douces dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour les Havrais. Bah, Daniel, dans ton émission du jeudi dernier, on a parlé des campings. Eh ben, figure-toi qu'on a le même problème au Havre, où la municipalité a décidé de mettre fin à sa délégation de service public et de fermer le camping de Montjon pour le 31 décembre. Les Havrais connaissent bien. Alors qu'il y a un véritable besoin dans cette ville portuaire, tout autant pour les touristes l'été et les travailleurs saisonniers tout au long de l'année. Certains sont contraints de faire ce choix car il est très cher de se loger au Havre. D'autres choisissent ce type d'habitat car dans le camping, ils ne sont plus seuls. Et c'est là un véritable lieu de convivialité pour eux. Alors le Repère du Havre lance un appel aux Havrais pour ce mercredi 11 octobre. Le premier pour défendre le camping. Hein, le premier à 18h au Repère, dont je rappelle l'adresse, hein, 116 avenue René Coty au Café Le Bistrot au Havre. Et le deuxième, donc ce même jour, mercredi 11, à 20h au camping de Montjon. Et c'est là, dans cette réunion de ce soir à 20h, qu'il sera décidé, en accord avec d'autres associations qui se joignent à nous, qu'il sera décidé des actions pour le défendre, le camping. Voilà, donc on vous espère nombreux. Donc à 18h au Repère, ou alors à 20h au camping. Allez, à bientôt, au revoir.
Oui, salut Daniel, c'est Vincent de Annonay dans l'Ardèche. Des nouvelles des quatre facteurs grévistes de la faim d'Annonay. Il est 2h30 du matin. Nous sommes en comité d'hygiène et de sécurité et de conditions du travail avec la Poste depuis 15 heures hier après-midi. Ce serait drôle si ce n'était pas si dramatique. Les négociations avancent, puis après quelques interruptions de séance, elles reculent. Un contact est établi avec le siège de la Poste à Paris par directeur interposé. La situation devient lamentable. Nos dirigeants souhaitent-ils trouver réellement une solution alors que la santé des grévistes de la faim se détériore d'heure en heure? Envoyez vos messages de soutien sur le fax numéro 04 77 37 42 48 ou par mail cyrille@laposte.fr. Merci Daniel pour tout ce que tu fais.
Erwan de Brest, pour vous annoncer que les repères de là-bas, si j'y suis, auront lieu ce soir, toujours au même endroit, non pas au Café de la Place, plage Guérin, mais au Café de la Plage, place Guérin, à Brest. Et nous parlerons sûrement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un eugénisme intellectuel comme il y a un eugénisme cérébral. Bref, tout le monde est la bienvenue, et surtout pour les nouveaux qui ne sont jamais venus dans ce genre de café, il y a une salle derrière le comptoir, donc n'hésitez pas à rentrer, même si c'est blindé de monde. Allez, salut tout le monde et tenez le coup.
Hey Bernard Tapie, t'en as pas marre de nous piquer nos impôts là? Nous on bosse pour gagner un salaire de merde, pour payer des impôts qui représentent presque un mois de salaire. Et toi, tu fais des caprices pour 145 millions d'euros, vraiment t'es rare. Vraiment t'es rare, Bernard Tapie. Tu nous gonfles, on a racheté le Crédit Lyonnais à cause de toi, on s'est saigné aux quatre veines, et monsieur réclame maintenant 1 milliard d'euros. Non mais on rêve, on rêve.
Даже ни одни, вот недели не прошло у нас без этого столько.
On ne laisse pas le temps de revenir à nous, de reprendre le temps.
В Армении не было войны вот назад. Вот прямо у нас вот сзади вот этот в том. Нет покоя.
Il n'y a pas de temps calme ici. Il n'y a pas de repos. C'est sans répit.
Почему они не приедут? Почему они не смотрят на всю эту картину?
Ce tableau.
Почему другие страны молчат? Они же знают.
Pays disent rien, se taisent alors qu'ils sont au courant.
Они же знают, что тут творят, но они не хотят об этом говорить.
Ils veulent pas en parler.
On s'est réunis avec les voisins pour enterrer les jeunes. Ils étaient tellement jeunes, ils étaient tellement beaux, des jeunes, des enfants. On s'est réunis pour pouvoir enterrer tous ces gens parce qu'il y avait tellement de morts à enterrer.
Il y avait
beaucoup, c'était pas possible de les compter.
C'est terrible, ces enfants qui écoutent ces histoires, qui sont là dans cette maison. L'électricité est revenue, mais s'il y a une panne, on nous a apporté une bougie, on est là tous les cinq à écouter ces histoires. Hein?
Il y a eu un petit garçon qui a été pris en otage, qui a été tué.
C'était un copain à toi?
Oui.
Iznor. Iznor, говорит.
Iznor? Il avait quel âge?
Six ans.
Six ans?
Мой век больше, да. Мой век больше. Я вел хорошо. Да, сахарный.
Iznor pleurait. Son père leur a donné de l'argent, mais ils l'ont quand même tué.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, Tchétchénie.
Flight number 2. Arriving from...
Aujourd'hui, c'est jeudi. On a pu sortir de Goudermès. Hier, on a été bloqué toute la journée. On a appris qu'il y a eu des combats dans la journée entre Goudermès et Grozny. On voit des camions citernes, maquillés, déguisés, encadrés par des véhicules militaires. Et on nous dit que c'est du pétrole ou de l'essence qui est détourné par la hiérarchie militaire elle-même. C'est-à-dire qu'ici, on le voit d'ailleurs dans le lointain. Ah, il faut la fermer là.
D'accord.
Là, il y a un poste de garde. D'accord, ok. Je range. Ouais, c'est des unités qui font du déminage avec des chiens, qui déminent le long de la route. Oui, donc pour la hiérarchie militaire, c'est un Eldorado. La Tchétchénie constitue un Eldorado. Ils s'en mettent plein les poches, mais c'est le cas aussi du moindre bidas. Peut-être les appeler. Là, on arrive encore à un poste. Peut-être qu'il y a peut-être que les appelés qui se font pas de fric, mais... D'accord, je ferme. Il y a un poste. Celui où il y a écrit Saint-Pétersbourg.
Честно сказать, пускай дети все видят, и мне кажется, лучше дома помирать, чем где-то ходить, собираться.
À tout prendre, faire que mes enfants voient tout ça et qu'on meure ici s'il faut mourir.
On ne fuit pas son pays.
Нельзя убежать от себя.
On se fuit pas soi-même.
От себя нельзя убежать.
On peut pas se fuir soi-même.
Où sont les caméras de Koukèche? Vous vous souvenez? Koukèche. Mais si, allons à la frontière du Kosovo, entre l'Albanie et le Kosovo, en mai 1999. Toutes les télés du monde se marchaient sur les pieds, et maquillées, et poudrées pour le 20h. Les présentateurs en gilet multipoche, d'une voix pénétrée, racontaient le calvaire des Albanais du Kosovo, le génocide, les charniers, tandis que les bombardiers bombardaient, nos bombardiers bombardaient les avions de l'OTAN. Et le cœur serré, nous tous, le monde entier, les gens du monde entier, espéraient, croyant que cette fois, oui, oui, enfin, la guerre humanitaire était là, la bonne guerre, la guerre de gauche, pour en finir avec ce qui doit, un jour ou l'autre, finir. Alors, pourquoi aucune caméra à Grozny ces temps-ci? Pas autant, mais deux ou trois pour nous faire savoir, pour nous informer. Mondialisation, communication, informatisation, tout voir, tout savoir, voilà notre monde, non? Non, pas du tout. Angle mort, petit confetti sacrifié dans un coin du décor écrasé du talon, sous silence, un silence même pas gêné, sans alibi, une impuissance sans pudeur, une indifférence sans problème. Est-ce que les gosses de Grozny valent moins que ceux de Pristina? Immolé. Un peuple est actuellement immolé sur l'autel du grand jeu géopolitique. Pétrole, unité russe, zone d'influence. On s'en fout. On en sait largement assez. Et c'est cette impuissance qui nous tombe dessus. Voilà tout ce que nous avons produit. Voilà où nous en sommes. C'est aussi simple et aussi clair et aussi bête que ça. Actuellement, des hommes, des femmes et des enfants continuent de mourir en Tchétchénie, des bombes de tomber, des hommes de périr, d'être torturés. 350 000 hommes qui sont revenus d'Algérie, on le sait maintenant, sont revenus blessés dans leur tête. 350 000 sur les 2 millions qui sont allés là-bas entre 1954 et 1962. 350 000, on le sait aujourd'hui. Combien d'enfants tchétchènes, combien d'hommes, de femmes, dans 40 ans, pourront dire ce que disent ceux qui étaient là-bas? Là, on est à Harkoun, on est entré dans la ville. Il y a des barrages très très nombreux. Il y a une opération de nettoyage qui se prépare dans un quartier. Il y avait des chars déployés, des engins, des BTR, des bidasses partout. Un nettoyage, ça veut dire que chaque maison, chaque cave est passée au peigne fin avec toutes les exactions habituelles. Donc il y a une tension particulière dans la ville. Et là, on est dans un local dans lequel se trouvent des enfants surtout, mais on va essayer de parler avec les femmes qui s'occupent d'eux. C'est un local où on prépare la fête du Nouvel An. Et toutes les nuits ici, il y a des tirs, les gens sont à bout de nerfs évidemment, mais les mômes ont l'air de résister apparemment un peu mieux. Ce que je vois par la fenêtre, c'est un spectacle de désolation, et pourtant, bon, ça tient encore un peu debout. Il y a quelques bout d'immeubles qui tiennent, avec quelques appartements même qui sont occupés. C'est toujours le même paysage, des arbres arrachés, des flaques d'eau à cause des canalisations qui sont pétées, et quand même un peu de vie dans tout ça. Qui sont les gens qui sont ici dans cette maison?
Les
réfugiés, les plus pauvres. La région d'Argun, de Vidino, de Nojayur, de différents endroits de Tchétchénie, c'est les plus pauvres, des réfugiés. Depuis 1995, de la guerre d'avant.
De la guerre d'avant et de cette guerre-là aussi?
Et de cette guerre aussi.
95, depuis 1995, ces réfugiés de l'intérieur de la Tchétchénie, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens de partir en Ingouchie dont nous parlions tout à l'heure, ils nous ont dit, dans les reportages précédents, ils nous ont dit que ça coûtait cher, il fallait avoir les moyens de partir, ils nous ont dit pourquoi ils restaient, parce que ils étaient trop nombreux, il y avait une vieille mère auprès de laquelle il fallait rester, et puis aussi parce que partir, c'est trahir. On va passer quelques instants dans ce bâtiment en partie en ruine où ces enfants et ceux qui s'en occupent, qui les éducateurs, instituteurs, parfois vivent. Vous faire comprendre ce que c'est que leur vie, leur survie. Comment j'ai compris un processus, je crois, qui est celui de neutraliser la terreur qu'on a en soi-même. Quand vous arrivez sur ce genre de terrain, d'endroit, vous êtes terrorisé, bien évidemment. Mais vous dites, mais pourquoi j'ai si peur? Et vous détestez cette peur qu'on a mise en vous, que le mal, parce que ça s'appelle comme ça, mais en vous. Et vous commencez à faire une sorte de résistance contre cette terreur intérieure, vous commencez à négocier avec elle, vous commencez à la refouler, à la nier, et à avoir une attitude qui semble tout à fait normale. Et c'est ce que font ces gens qui sont autour de nous, ils semblent tout à fait normaux, les enfants semblent, vous allez voir, tout à fait... Non, on croirait rentrer dans une école de chez nous, et en fait c'est des gens qui essayent inutilement, bien sûr, de neutraliser la terreur qui les habite comme une résistance inconsciente. 350 000 hommes sur les 2 millions qui sont allés en Algérie souffrent toujours chez nous aujourd'hui, 40 ans après, de troubles psychiques. Comment tu t'appelles, toi ?
Hossein.
D'où tu viens ?
De Grozny.
Tu viens de Grozny ? Est-ce que tu as vu la guerre, toi ?
J'ai vu les avions qui passent dans le ciel, les snipers. J'ai vu des morts avec la tête arrachée, les jambes arrachées.
Tu as vu ça avec tes yeux?
Oui, j'ai vu.
Quand est-ce que tu as vu ça?
L'année dernière, en 99.
Tu étais avec tes parents?
Voilà. Oui. J'étais sur le balcon, j'ai vu des soldats sur les tanks qui tiraient. C'était terrible. Il a été en état de choc, en situation de choc, dit la dame qui s'occupe des réfugiés. On a tiré du temps qu'il y a eu 3 morts et des blessés. Il y a eu un petit garçon qui a été pris en otage, qui a été tué.
C'était un copain à toi ?
Iznor,
il avait quel âge ?
6 ans.
Iznor pleurait, son père leur a donné de l'argent, mais ils l'ont quand même tué.
Je suppose que tous les enfants racontent des histoires comme celle-là.
Oui, c'est la même situation pour tous. Ici, c'est vraiment horrible. Ils sont tous très irascibles.
Ah. Vous avez des tirs ici, vous avez des bombardements.
Bien sûr, il y a des tirs. On va toujours dans le couloir, dans la cave. C'est pourquoi moi j'ai mal aux reins, j'ai très mal aux reins. On est tous malades.
C'est toutes les nuits, vous avez des tirs souvent?
Hier, il y a eu des tirs. Oui, pendant la nuit. Des tirs de tanks, de mitraillettes, des snipers. Des obus aussi parfois.
У меня сильно сердце болит. У всех даже. Мы все.
Moi, j'ai le cœur malade.
Да, мы все под валерианком живем.
On vit tous dans la cave.
Сейчас они все на шоком состоянии, напуганы.
Ils sont tous en état de choc actuellement. Ils ont très peur.
Все напуганы.
Tous les enfants sont très effrayés. Nous aussi, on est effrayés.
Et ils font des dessins, les enfants?
Там,
oui.
Comment? Comment?
Oui, dans la pièce.
Là,
on va aller voir.
Dans
le mur. En tant que psychologue, ça m'intéresse. Ah, voilà. Ça déborde de génie. Et là, c'est des dessins extraordinaires qui ont été faits par les enfants, qui représentent vraiment tout ce qu'on voit autour de nous. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire des immeubles détruits, des parties qui sont complètement explosées, arrachées. Là, on voit ça, c'est quoi? C'est des mines?
Oui.
Là, ça, c'est un sniper.
Он чечен, да. Вот стреляют русских танк БТР.
И тир sur le танк, sur le БТР.
Перестрелка.
Я детир лама.
Вот послушайте.
И кути.
Танк там. Танк каждый день бывает у нас.
Alors, on est là avec ces enfants qui se rendent pas compte évidemment de ce qui se passe. Les enfants gueulent plus fort que les tirs. Je viens pas là. Ah, si, on entend là, le bombardement. Revenons voir ces dessins. Effectivement, on entend des roulements des tirs. Là, on voit à nouveau ces maisons complètement défoncées, ces immeubles complètement défoncés. Là, on voit des colonnes. Les gosses ont dessiné des colonnes de chars et de BTR. C'est exactement ça. C'est d'une précision extraordinaire. Des avions qui passent dans le ciel. Là, des bombes qui... Des avions camouflés, des chars de combat. C'est extraordinaire comment les mots m'ont tout dessiné, tout représenté, tout ce qui est dans l'esprit, dans la tête de chacun. Tous les...
Il y a des tirs.
Et puis parmi tout ça quand même, il y a un gosse qui a dessiné un cygne jaune sur un étang bleu avec une prairie verte, un soleil et un cœur. Et c'est un cygne avec un petite couronne argentée et un petit collier doré.
Et là, vous voyez?
Ça, c'est quoi? Les gosses connaissent le langage des tirs. Loin, près, mitraillette au poste de contrôle, tir d'artillerie, tir d'aviation, tir au loin. Et ils connaissent le langage de ces tirs. On a compris la stratégie fédérale de l'armée russe, c'est de terroriser les civils pour qu'ils se désolidarisent d'avec les combattants, pour que le peuple rejette ceux qui se battent au nom même du peuple. C'est la stratégie on appelle ça vider le bocal pour prendre le poisson. Où en est le moral? Parce que c'est pas seulement un assassinat d'un peuple sur le plan physique, mais vous voyez bien, c'est psychologique, c'est psychique, c'est dans son âme même. Une insulte, insulter une femme tchétchène, comme le font les bidasses russes au poste de contrôle, par exemple, c'est la détruire complètement. C'est un peuple ancien avec ses croyances, avec sa culture, etc. Et l'état-major connaît ça et sait comment on casse un peuple de l'intérieur. C'est des vieilles combines, c'est des vieilles ficelles employées depuis très longtemps. Il y a ces deux guerres qui se succèdent aussi. En 96, les Russes ont pensé avoir gagné. En 97, ils se sont élus un président quand même de ce pays. Et en 99, il a fallu reprendre. On donne des milliers d'explications à ce qui se passe dans cette petite partie du monde. Cette énorme Russie, et ce tout petit confetti, cette épine dans le pied de l'ours russe. On trouve des explications à travers le pétrole, à travers la géopolitique, à travers l'histoire, etc. Reste que il y a bel et bien, au jour le jour, un peuple qui n'en peut plus. Et chaque bombe que vous entendez fabrique des rebelles. Les enfants qui sont là, qui ont 8 ans, 10 ans, entendent tout ça, dessinent tout ça. Et ne croyez pas qu'ils se préparent à la paix. C'est des enfants tchétchènes. Les tchétchènes sont depuis longtemps des hommes de pugnace, des hommes de combat. Et la vendetta prévaut toujours dans cette culture. Et un enfant doit, son clan l'exige, un jour ou l'autre, venger ceux de son clan qui ont été offensés, ne serait-ce qu'offensés, évidemment à plus forte raison tués. Donc jamais, jamais, jamais la Russie n'arrivera à neutraliser ce peuple-là et à le dominer. Cette guerre dure depuis 2 siècles et actuellement, la Russie, une nouvelle fois, l'armée russe, une nouvelle fois, s'enlise, s'enfonce et inéluctablement perdra, même si ça doit passer comme certains le craignent, comme Elena Bonner le craint, comme Kovaliev, Sergei Kovaliev le craint, que ça passe par le génocide du peuple tchétchène.
On a un peu la trouille parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir sortir de la zone maintenant, s'il y a des tirs, s'il y a des combats. Il se peut qu'on soit obligé de rester ici. Alors on va peut-être essayer de partir. Il y a les montagnes, il y a les hélicoptères. Donc les gosses suivent ces combats. Elles sont au courant de tout, sentent tout. On sent qu'ils ont... Là, il y a tout un tas de récits. Il y a des parachutes, là. Mais c'est très, 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 très précis.
Вот они сами сделают вот так. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Всегда
они вот так. Ils font tout le temps comme ça.
Самолет сделает все вот так. Вот так сделают они, да? Сами вот так делают.
Comment ça fait là? Quel bruit ça fait la guerre? Dis-moi. Et toi, tu fais aussi? Et les petites filles, elles mettent leurs doigts dans leurs oreilles, hein, pour en écoutant ça. Bourad. On repasse par cet escalier avec des trous. Ah, c'est extraordinaire, je suis en train d'essayer de décrire
cet escalier défoncé avec des impacts de tir partout. Là, il y a un trou. Je suis face à un trou qui donne dans la cour. Mais là, en contrebas, il y a une femme avec un, une jeune femme avec une balayette qui est en train de nettoyer cet escalier quand même. J'ai planqué mon matos avant de sortir, hein. J'ai planqué le matos avant de sortir.
Mourad dit que ça tire énormément et dans un quart d'heure, la ville risque d'être bouclée. C'est pour ça qu'il voulait qu'on parte vite.
Voilà, on se dépêche de sortir de la ville d'Argun parce qu'on pense que la ville pourrait être bouclée. Il y a eu des tirs et des, probablement des combats dans la région. Des combats, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas des tirs, ce qui précède le bouclage des zones. Donc là, on essaie de se barrer le plus vite possible. On apprend que des rumeurs qui circulent, mais on apprend qu'un... Un collaborateur de la Croix-Rouge ici a été battu par les militaires. Un Tchétchène employé par la Croix-Rouge qui a été battu. C'est vraiment l'arbitraire le plus total, la terreur la plus totale, la pression. Chaque personne ici vit sous une tonne de pression, de peur, de permanent. On va voir si on peut sortir de la ville. Là, c'est étonnant. Sur la gauche, il y a deux gosses qui arrivent en jouant et la petite voiturette avec laquelle ils jouent, c'est une copie d'un engin militaire. Ils ont bricolé. Extraordinaire le visage de ce môme qui rigole avec des lunettes noires. Il a trouvé des lunettes noires.
Chaque nettoyage, c'est un grand pillage. Chaque nettoyage, c'est un vaste pillage. Moi, je suis médecin et avec la formation que j'ai, je ne prendrai jamais une arme dans la main.
Mais il y a beaucoup de gens qui le font pour
se venger.
Ça, c'est impressionnant quand même, dans cet hôpital complètement loque. Tout est défoncé, sale, les plastiques aux fenêtres, les couloirs sont dans l'obscurité, les fils pendent de partout, ça pue dans les escaliers, ça pue vraiment, ça pue le pu, ça pue la merde, tout. Il y a quand même des médecins qui sont là et qui ont fait cette opération que j'ai sous les yeux. C'est un garçon qui a perdu les deux jambes, enfin qui les a pas tout à fait perdues, ses jambes ont explosé sur une mine
Et les médecins ont essayé de sauver ce qu'ils pouvaient sauver. Mais il y a besoin d'une greffe osseuse et ça a l'air très compromis. Qu'est-ce qui manque à ce garçon ? Le courant vient de tomber. Il y a une panne de courant.
Il
faut attendre que la plaie soit nettoyée et qu'elle
cicatrise.
Il faut faire dans une clinique une greffe osseuse. Ici, ça ne marchera pas.
Vous avez beaucoup d'accidents comme ça sur des mines ?
Beaucoup. Presque tous ceux qui sont là sont des traumatismes de saut sur des mines.
Qu'est-ce qui vous manque le plus ici ?
C'est
difficile de vous répondre. Tout nous manque.
У нас нету оборудования, нет инструментов, нет оборудования. Мы все приспосабливаемся.
On n'a pas les instruments, on s'adapte, on essaye de trouver des choses. Ça et là.
После первой войны больница была брошена, все разграбили.
L'hôpital était complètement à l'abandon, tout avait été pillé.
Dites-moi, sans indiscrétion, si ce n'est pas indiscret, vous êtes payé comment actuellement ? Médecin, infirmier, infirmière, personnel de l'hôpital ?
Personne ne nous paye.
Нам уже 8 месяцев не платили, сейчас только дали за 2 месяца.
Et là, on vient juste de recevoir 2 mois.
Мы так просто существуем.
On existe, on survit.
Я врач, для меня унизительно.
Moi, je suis médecin,
там,
pour moi,
c'est
très humiliant. C'est très humiliant d'aller demander à quelqu'un de quoi m'acheter un paquet de cigarettes.
Quand vous êtes payé, c'est combien par mois ?
Мало.
C'est peu.
Мало.
C'est peu.
Я говорю, сейчас мы не о платах ставим вопрос. Нам надо выжить в этой ситуации.
La question, c'est pas une question de salaire, c'est une question de survie dans une situation comme ça.
Он тоже чечен, я чечен.
Oui, il est чечен, moi, je suis чечен, il faut qu'on s'entraide.
Нам надо выжить.
Il faut survivre, c'est une question de survie.
Потому что народ истощался.
Parce que le peuple est épuisé.
У народа нету ничего. Сейчас бедный
все. Le peuple n'a plus rien. Tout le monde est pauvre.
Понимаете?
On a rien pour vivre.
И притом, вот это блокпосты,
очень
много людей, раненые дома лежат, не могут проехать.
Il y a beaucoup de gens, à cause du poste de contrôle, il y a beaucoup de blessés qui sont chez eux, qui ne peuvent pas venir à l'hôpital à cause du poste de contrôle.
Ah, pour entrer. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir.
Да, не могут. Потому что попадешь там, они начинают, где что, пока одном посту, втором 5-6 постов пройдешь.
Parce que s'ils doivent passer 5 ou 6 postes de contrôle, ils y perdent la journée.
Y compris des jours comme aujourd'hui où toute la ville est fermée, est bouclée. Et là, on est passé au poste de contrôle pour entrer dans l'hôpital. C'est effectivement, c'est des visites très, très poussées. On fait gaffe, évidemment, à ce que les véhicules ne transportent pas des combattants qui viendraient se faire soigner. C'est ça la mesure prise par les Russes.
C'est aussi un moyen pour les Russes, l'armée russe, à chaque poste de contrôle, d'organiser un racket. On comprend assez rapidement, c'est évident, qu'il n'y a aucun combat. On l'a dit et redit, et tout le monde le sait parfaitement. Mais la chasse aux combattants, aux boïviki, aux résistants, comme vous voulez, n'est pas la première préoccupation non plus des militaires qui sont là. Le problème, leur but numéro un, c'est le racket. Quand on sait l'état de décomposition totale de cette armée russe et de ce pays en général, le chaos russe, on comprend, on trouve pas anormal. Quand on connaît le pays de l'intérieur et cette armée aussi, il faut rappeler quand même que uniquement en termes de bizutage, des bizutages dans l'armée russe font 2000 morts chaque année. 2000 morts uniquement lors des bizutages. C'est-à-dire la barbarie totale qui règne dans cette ex-glorieuse armée rouge. Et aujourd'hui, pour tous, pour chacun, la question, c'est gratter un peu d'argent pour les bidasses de base ou bien pour la hiérarchie militaire. Sans mettre plein les poches, un point, c'est tout.
C'est une vision assez terrible, ces deux jambes avec ces structures métalliques autour, des fils, des vis, et toute une structure. Et puis ce jeune homme qui a quoi, une vingtaine d'années. Comment tu t'appelles ?
Aslan.
Aslan.
Aslan, tu as quel âge, Aslan ?
20
ans.
20 ans. Quand est-ce que tu as été 20 ans ?
Novembre.
En novembre.
Au mois de novembre. Et quand est-ce que tu as été blessé ?
Le 6 novembre.
Pour tes 20 ans.
Ouais,
mon anniversaire, c'est le 20.
Comment ça s'est produit? Tu peux nous raconter comment ça s'est passé?
Je me souviens pas, on roulait et ça a explosé. J'étais derrière, c'était mon ami qui était devant.
En moto?
Oui. Mon ami est mort. Et moi, voilà, vous voyez dans quel état je suis. Il a eu un traumatisme crânien, c'est pour ça qu'il ne se souvient pas.
Ah, il a un problème de trou de mémoire. Il a des trous de mémoire. Alors c'est sur cette partie-là qu'il n'y a pas d'os du tout, c'est-à-dire sur la jambe elle-même, là il n'y a pas d'os. Ça tient uniquement par le métal qui est à l'extérieur.
Il y a 12 cm sur lesquels ça manque. Ça tient grâce à l'appareil. C'est l'appareil qui tient. Il y a un autre malade.
On va aller voir. Bon, on te souhaite du courage.
Qui a aussi sauté sur une mine et qui a la jambe arrachée.
On te souhaite du courage. Tu l'as dit en tchétchène?
Da.
Je voudrais citer le nom d'une femme qui s'appelle Petimat. Et Petimat, c'est une infirmière que j'ai rencontrée dans le couloir de cet hôpital. Elle était assise derrière une grande table. Et très lentement, avec des morceaux de drap, elle enlevait les fils, un fil sur deux, de façon à faire des compresses, qui sont utilisées ensuite par les médecins. Je veux absolument garder cette image de cette femme qui, jour et nuit, sous une ampoule électrique, enlève des fils, comme ça, pour fabriquer des compresses. On continue la visite de cet hôpital.
Il y a une famille ici, la mère et le fils. La mère est russe. Le père était tchétchène, le père de cet enfant. Et ce garçon est très malade. Et il a passé toute l'année dans cet hôpital. Ils peuvent vivre nulle part ailleurs. Ils étaient de Grozny, il y a eu les bombardements.
Там уже жить негде.
Ils ont nulle part où vivre là-bas.
И вот сотрудники сами их здесь кормят.
Et le personnel de l'hôpital nourrit ces personnes, leur donne de l'argent.
Et они здесь живут.
Et ils vivent ici.
Adoptés.
Et ils ont fait des papiers comme quoi la mère travaillait comme aide-soignante.
Ну, зарплаты нет.
Il n'y a pas de salaire.
Он почти слепой.
Il est quasiment aveugle.
Очень плохо видит.
Il voit très très mal.
Et еще с ногой что у него?
Il a une blessure à la jambe, une blessure par éclat de mine, et c'est une blessure très compliquée. Et on lui a fait une greffe de peau, une greffe dermique.
Fiston, ouf! C'est difficile à voir comme spectacle, c'est une jambe complètement creusée comme ça. Il manque une partie de la chair de la jambe de ce garçon. Bonjour.
Alexei. Il s'appelle Alexei, c'est un passeport, mais on l'appelle
Ali. Baba et 40 razbonniks.
Ali Baba et les 40 voleurs.
Ah, tu t'appelles Alexei et Ali aussi.
Ali et Alexei.
Alors t'es quoi? T'es tchétchène ou tu es russe?
Métis.
Je suis métis.
T'es métis?
Moi, russe, t'es tchétchène.
Ma mère est russe, mon père tchétchène.
Et tu es pour qui alors?
Sam, ça c'est bien, c'est comme
pour moi-même, pour qui d'autre?
Pour toi. Et pourquoi tu es ici à l'hôpital? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe là? C'est terrible.
J'ai une blessure par éclat. Ça fait un an et deux mois que je suis là. J'ai rien à manger. Notre maison a été détruite.
Vous venez du Grozny?
On
vivait à Grozny. J'étais près de la cour, je coupais du bois. Et il y a eu des tirs, un tir d'obus d'un tank.
Ну, и подстрелили, потом меня привезли в старый Атаги в больницу.
Я иди тир, и après on m'a emmené à l'hôpital d'Atagi, après Chiriyurt.
Потом сюда попал.
Et après je suis arrivé ici.
99 года, 4 ноября.
Le 4 novembre 99. Je me souviens pas quel jour c'était.
Ну вообще эта сторона как контуженная вообще.
J'ai eu des contusions.
С глазом плохо.
Et je vois mal.
Mais c'est à cause de cet éclat que tu as des problèmes aux yeux.
Да, связано.
Oui, c'est lié.
Quand on est métisse comme toi, est-ce que c'est difficile de vivre parmi les Tchétchènes?
Да бывает, ну мир не без добрых людей.
Non, les civils, ils sont gentils. Les gens s'aident.
On n'a
rien, pour vivre. On mange que de la cacha de l'hôpital. On a envie d'autre chose, quand même.
Tout
le monde me dit que je suis russe, je ressemble à un russe.
Mais tu fais le ramadan en ce moment?
Соблюдал раньше.
Je le faisais avant.
Mm. Я люблю чеченцев, потому что у меня отец был чеченец.
J'aime les Tchétchènes, mon père était tchétchène.
Ouais. T'es un peu musulman, un peu orthodoxe.
Нет, чисто мусульманский.
Non, purement musulman.
T'es purement musulman.
Считаю себя так.
Je me considère comme tel.
Mais quand tu vois ces Russes, cette armée russe, tous ces jeunes Russes qui sont là, qu'est-ce que tu penses?
Ну не знаю, когда нога поправится, придется строить дом.
Je ne sais pas. Quand ma jambe ira mieux, je reconstruirai ma maison. J'ai nulle part où vivre ailleurs.
Mm-hmm.
La maison a brûlé complètement.
Et ton père, il est où?
Отец 6 лет назад умер.
Il est mort il y a 6 ans. Il s'est noyé dans l'eau.
Donc tu restes avec ta mère et ton frère?
On ne
sait pas où il est, mon frère.
Il a quel âge?
20.
Il a 20 ans.
После того, как уехал, он один раз приезжал в Чириюрт, и после того уже больше его не видели.
Après m'avoir emmené à Чириюрт, il est venu une fois me voir, après il a disparu.
Я сам даже не знаю, куда он мог деться.
Je sais pas où il a pu passer.
Уже год, как его не видел никто.
Ça fait un an que personne ne l'a plus vu.
Tu penses qu'il est peut-être allé combattre?
Наверное, он пошел на войну или убили где-то.
Sûrement, soit il est parti à la guerre, soit il a été tué.
À quoi tu passes tes journées?
Вставать чуть-чуть, могу ходить.
А так, peux me lever un petit peu, faire quelques pas.
А так, лежу больше в палате.
Et sinon, la plupart du temps, je suis allongée dans la chambre de l'hôpital.
Как можно стоять, уснуть, все.
Quand je peux, j'essaye de dormir.
Мать сейчас пошла, добивается чего-то. Она плачет.
Ma mère est partie là, chercher à manger, demander à quelqu'un de l'aider. On n'a rien à manger.
C'est son lit là, elle dort ici.
Ah, ça, celui-là, son lit. Et ça, c'est le mien.
Comment ça va évoluer sa jambe, docteur?
Со временем эту рану можно закрыть.
Avec le temps, la blessure peut se refermer.
Пересадкой.
Avec la greffe.
Vous allez faire une greffe?
Сейчас пока нет.
Pas pour l'instant.
Потому что немножко ему надо дать отдохнуть.
Il faut d'abord qu'il se repose.
Он уже год в больнице.
Ça fait un an qu'il est à l'hôpital. C'est
épuisant,
il n'a pas de force.
C'est vous le personnel qui prenait la maman et le garçon en charge?
Non, мы не можем сейчас их выгнать, потому что некуда выгнать.
On peut pas les chasser. On ne peut pas les chasser, on est des êtres humains quand même. Ils ont nulle part où aller. Tant qu'elle ne peut pas recevoir une pension, tous les jours, elle va à l'administration. Tous les jours.
Mm-hmm. Allez, bon courage. Courage.
Спасибо,
Баркала.
Спасибо, Баркала.
Спасибо, Иван.
Merci à vous.
Баркасиба.
Баркасиба.
Voilà, merci à tous. C'était en hommage à la journaliste russe assassinée, Anna Politkovskaya. Ce retour en Tchétchénie, un reportage avec Aude Merlin en 2001. À lire d'Anna Politkovskaya, Journal d'une femme en colère, aux éditions Bûcher.
Duché Chastel. Et toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission La Basse Égypte. La technique aujourd'hui, Henri Bérec et Eric Morin. Réalisation Yann Chouka et Koyen Guyen, assisté de Pascal Le, Pascariello. Et c'est Christophe Imbert qui a la charge, lourde charge du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37.